Le journal Sarah Guibaudot, bonsoir.
Bonsoir. 42 degrés 6 à Paris, plus de 40 à 3 Rouen, Lille et Dunkerque. Les thermomètres s'affolent, mais les mesures de prévention fonctionnent. Reportage à l'hôpital de Bondy, près de Paris, et à la prison de Bois-d'Arcy. Allô la police, à Anvers, des trafiquants de drogue appellent au secours pour ne pas cuire dans un conteneur. La canicule se termine ce soir, prévision de Sébastien Léas dans 20 minutes. Décidément, le chantier de Notre-Dame accumule les déboires. À l'arrêt, sur ordre du préfet d'Île-de-France, les précautions pour les ouvriers exposés au plomb ne sont pas respectées. 3 ans après la mort de Sonia Riquiel, c'est la liquidation pour sa maison de prêt-à-porter, icône de la mode depuis les années 60 avec son tricot rayé. Elle emploie encore 130 personnes. On est loin de la guerre des étoiles, mais l'armée française se prépare à protéger nos satellites de possibles attaques. Le journal du Tour, jusqu'où ira Julian Alaphilippe, toujours en jaune au terme d'une première étape alpine remportée par Nairo Quintana. Le téléphone sonne, Yves Decaen.
Il ouvre la PMA à toutes les femmes et permet aux enfants d'accéder à leurs origines. Deux des mesures phares du projet de loi bioéthique qui remettent à jour la législation sur beaucoup de points. Mais que va-t-il changer précisément? Vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000.
France Inter. C'est donc la journée des records météo. 42,6 degrés à Paris qui explose le record de 1947. 41,4 à 3. Rouen, Lille, Dunkerque, Dieppe, Abbeville, Évreux au-dessus des 40. Les températures mesurées cet après-midi par Météo France dépassent souvent de 2 ou 3 degrés les records historiques. L'alerte rouge avait été déclenchée hier sur le nord de la France, mesure qui n'existait pas en 2003. Et pour le moment, il n'y a pas d'afflux massif de patients dans les hôpitaux, selon l'association des médecins urgentistes. Maureen Suignard s'est rendue ce matin à l'hôpital Jean Verdier de Bondy en Seine-Saint-Denis où l'on se protège avec les moyens du bord.
Dans les couloirs de l'hôpital, la température dépasse les 30 degrés.
On a fermé les fenêtres. C'est déjà une première chose.
La visite du service est opérée par Stéphane Gaudry, professeur de médecine intensive réanimation.
Je vais vous montrer un petit peu comment on fonctionne.
Partout, les volets sont tirés et les médecins ont une technique bien à eux pour empêcher la chaleur de rentrer.
On met des couvertures de survie sur les fenêtres pour en plus faire un petit peu plus d'isolation. Ça marche bien et ça coûte pas cher.
Des astuces devenues des réflexes à la suite des vagues de chaleur successives et cela touche aussi les patients.
On a des chambres qui n'ont pas de clim et on a des chambres qui ont des clims. On a commencé à faire des transferts de certains malades qui ont vraiment besoin.
C'est le cas de Tatiana qui est hospitalisée.
Ils m'ont mis la brume à disponibilité et des bouteilles d'eau aussi. Moi, je pensais que j'allais arriver, j'avais pris mon éventail. Je me suis dit, je vais être trempée, ça va être désagréable. Mais en fait, non, c'est parfait.
Si la situation n'est pas optimale, elle est tout de même bien meilleure qu'en 2003, selon le professeur Stéphane Gaudry.
Moi, j'étais interne en 2003. La canicule, c'est pour toute ma génération, c'est Tchernobyl, quoi. Maintenant, en fait, notre temps de réaction, il est immédiat. Si on brutalement disait, l'année prochaine, tous les hôpitaux français seront climatisés, ça veut dire qu'on n'investit plus dans plein d'autres choses.
Et selon lui, contrairement à 2003, l'afflux de patients pour des coups de chaleur a été bien moindre dans cet hôpital.
Maureen Suignard, les rails qui se dilatent, appareils électriques en surchauffe, le trafic est fortement perturbé ce soir sur les trains Thalys entre Paris, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Plus de billets à la vente aujourd'hui et demain. Dans les prisons, quand la chaleur vient s'ajouter à la surpopulation, les détenus sont vite à cran et les surveillants épuisés. 71 000 personnes sont incarcérées en France. Comment on s'adapte à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy dans les Yvelines? Reportage de Laurélie Carive.
Dans l'un des ateliers de la prison, à midi, le thermomètre affiche déjà 34 degrés. Les détenus ont été autorisés à laisser tomber le bleu de travail. Certains profitent que le surveillant ait le dos tourné pour finir torse nu. Mais le pire, évidemment, c'est une fois regagné l'espace clos des cellules.
Bon, malheureusement, c'est un peu compliqué. Après, on essaie tous d'avoir des petits systèmes pour essayer de lutter contre la chaleur. On met des bassines d'eau sous le lit, on met des serviettes mouillées un petit peu partout avec le ventilateur pour avoir un peu de fraîcheur.
La température est montée jusqu'à 33 degrés hier au sein du quartier disciplinaire qui a dû être évacué. Ici, ils sont jusqu'à 3 dans 9 mètres carrés. Le système électrique est trop vétu pour supporter l'installation de réfrigérateurs dans chaque cellule. Alors, moyennant 100 euros, les plus fortunés peuvent s'acheter une glacière. Le plan canicule élaboré par le ministère préconise également d'aller au-delà des 3 douches hebdomadaires. Une mesure impossible à mettre en pratique à Bois-d'Arcy, explique Odile Cardon, la directrice de la maison d'arrêt.
Ici, nous ne pouvons pas le faire car nous sommes en surpopulation. les tours de douche, c'est toute une organisation. Il faut ouvrir les portes. Les personnes détenues ont un temps limité dans les douches, donc nous ne pouvons pas leur donner plus de 3 douches par semaine. C'est la raison pour laquelle nous avons installé des douches dans les cours de promenade.
Avec ces conditions de détention plus difficiles qu'à l'accoutumée, le risque, c'est de voir éclater des violences. Mais pour l'instant, selon la directrice, à Bois-d'Arcy, aucun véritable incident n'est à déplorer.
Des records de chaleur ont été battus aussi en Belgique et aux Pays-Bas, deux pays où le mercure n'avait jamais dépassé les 40 degrés. Et c'est dans ce contexte que deux trafiquants de drogue se sont livrés à la police hier à Anvers. Bonsoir Pierre Benazet.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant en Belgique et dans cette histoire, c'était un peu la coque ou la vie.
Oui, en gros, soit les malfaiteurs restaient dans leur conteneur, soit ils finissaient grillés. Du coup, ils ont choisi, et vers 10h30 ce mercredi matin, deux hommes ont appelé la police anversoise sur le numéro d'urgence. Ils devaient être déjà tellement desséchés qu'ils n'ont même pas cherché à se faire passer pour des dockers coincés par inadvertance dans un conteneur. Ils ont apparemment immédiatement concédé au standard de la police qu'ils étaient en train de décharger une cargaison de drogue. Les douaniers locaux appellent ça la technique du rip-off, se précipiter dès son déchargement vers un conteneur transportant des marchandises illégales pour les en extraire immédiatement. Ce sont en fait les dockers qui les auraient repérés et les auraient enfermés. En revanche, les deux malfaiteurs n'avaient pas suffisamment repéré les lieux. Ils ont été incapables de donner avec précision aux policiers le lieu de leur détention. Ceux-ci ont donc arpenté pendant plusieurs dizaines de minutes le port d'Anvers avant de trouver le bon conteneur vers 12h20. Pistolet dans une main, bouteille d'eau dans l'autre, ils ont alors ouvert le conteneur où ils ont découvert les deux hommes qui entre-temps s'étaient entièrement déshabillés et ils les ont donc aspergés d'eau avant de les arrêter.
Pierre Benazet à Bruxelles. Cet épisode de canicule se termine ce soir. Fin de la circulation différenciée demain à Paris et Lille, mais les véhicules polluants restent bannis à Lyon et Strasbourg. Le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris est déjà sous la pression de l'enquête judiciaire après l'incendie qui a ravagé la flèche et la charpente le 15 avril. L'instruction privilégie la thèse de l'accident, mais s'oriente vers des négligences qui auraient pu être commises. Depuis, la priorité est de consolider l'édifice tout en faisant attention aux poussières de plomb dégagées par la destruction du toit. Et c'est ce qui a conduit aujourd'hui le préfet d'Île-de-France à suspendre le chantier. Bonsoir Béatrice Duguay.
Bonsoir.
Michel Cadot pèse ses mots, mais le constat est sévère.
Les règles de précaution sanitaire pour les ouvriers exposés au plomb ne sont pas suffisamment appliquées, explique le préfet qui suit le constat dressé en fait par l'inspection du travail après plusieurs visite annoncée sur ce chantier fortement contaminé par le plomb fondu de la flèche et de la toiture de Notre-Dame. Eh bien, les fonctionnaires ont vu que les zones de circulation des ouvriers au bord des lieux souillés ainsi que les zones de sortie vers l'espace public n'étaient pas assez protégées. Les zones de décontamination sont par ailleurs sous-dimensionnées. Il y a volonté de bien faire, de faire vite, justifie Michel Cadot, qui loue le travail formidable des compagnons et de toutes les entreprises, sauf qu'il faut remettre à plat les règles de fonctionnement en zone rouge. Savons de douche de décontamination, pédiluve, utilisation de masques et de combinaisons à usage unique, temps de pause, traçabilité des déchets. Tout cela existe, mais avec trop de liberté quant aux règles, il va falloir reformaliser les protocoles de travail. D'ici là, le chantier s'arrête pour une bonne semaine.
Merci Béatrice Duguay. Ce matin, deux écoles du 6e arrondissement de Paris qui accueillaient des enfants en centre de loisirs ont été fermées à cause d'une concentration de plomb trop élevée. La mairie de Paris avait assuré la semaine dernière qu'il n'y avait aucun risque pour la santé, tout en annonçant de nouvelles mesures et un grand nettoyage des écoles. Une fillette de 9 ans qui n'est jamais rentrée de l'école. Et 16 ans après, la disparition d'Estelle Mouzin à Guermantes en Seine-et-Marne reste une énigme. Son père ne renonce pas. Il a souvent estimé que la justice, elle, n'avait pas bien travaillé. Aujourd'hui, la Cour de cassation a décidé de dépayser le dossier de Meaux à Paris pour continuer à creuser la piste du tueur en série, Michel Fourniret. Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir.
C'est en fait un gage de continuité pour une fois et c'est ce que salue ce soir le père d'Estelle.
Oui, c'est un nouvel espoir pour Éric Mouzin, le papa d'Estelle, qui pense depuis des années que la piste du tueur en série Michel Fourniret n'a pas été assez efficacement suivie après la disparition de sa fille. Il estime que plusieurs policiers et magistrats ont disculpé trop vite cet inquiétant suspect, alors que Fourniret lui-même semble avoir fait récemment des aveux en creux à la juge d'instruction qu'il interrogeait dans une autre affaire, juge à qui il semble vouloir faire des révélations, et c'est pour cela que cette juge parisienne a été choisi pour reprendre cette enquête. Pour Éric Mouzin, c'est un soulagement.
J'espère qu'on aura un œil neuf sur le dossier et que la remise à plat du dossier permettra d'avancer. On a perdu beaucoup de temps, qu'on arrive à résoudre le dossier et qu'ensuite on arrive à faire un retour d'expérience, de voir les étapes qui ont été loupées, quelle était la méthode ou le défaut de méthode qui a fait que ça a duré aussi longtemps.
Et le père d'Estelle Mouzin va continuer à militer pour que soient nommés des juges spécifiques et uniques dans toute affaire de disparition d'enfants et de tueurs en série. C'est la seule méthode, plaident aussi les avocats de la famille Mouzin, pour assembler des indices parfois ténus, mais cruciaux dans ce genre d'affaires.
Sophie Parmentier, c'est une marque emblématique de la mode française depuis les années 60, reconnaissable à son tricot rayé de couleurs vives, longtemps incarnée par sa créatrice Sonia Riquiel avec ses cheveux roux gaufrés. Mais 3 ans après sa mort, les derniers salariés, ils sont 131, ont vu s'envoler cet après-midi tout espoir de reprise. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
La maison Sonia Riquiel est placée en liquidation judiciaire.
Oui, et lorsqu'elle est entrée chez Riquiel en 98, il y a 21 ans, Zaya, directrice de boutique, n'aurait jamais, jamais imaginé une telle fin.
Non, on n'y croit pas. Aujourd'hui, Sonia Riquiel, ça a un nom, c'est porteur, on a une légitimité dans la mode, on reconnaît une femme Riquiel, on reconnaît l'ADN de la maison. C'est impossible. Tout le monde se dit, encore dans le milieu de la mode, c'est pas possible que ça vous arrive.
Et pourtant, c'est arrivé après le rachat de l'enseigne par des investisseurs chinois en 2012, des erreurs de stratégie, tout s'accélère. En 7 ans, le chiffre d'affaires est divisé par 2. Sonia Riquiel disparue en 2016, en aurait pleuré, estiment les salariés. Quant à Nathalie, la fille Riquiel, elle est accusée par une partie des employés de ne pas avoir fait grand-chose pour éviter tout ça.
Je ne sais pas ce qu'a fait la famille, je sais que nous, on a ressenti qu'elle n'était pas à nos côtés. On a participé à construire cette maison, à construire toute l'histoire et aujourd'hui on n'existe plus, on n'est rien.
L'amertume de Carmen, employée chez Riquiel depuis 18 ans, Norbert, chef d'atelier à Saint-Germain-des-Prés, gardera lui un souvenir ému d'avoir travaillé pour cette maison.
Ça restera toujours la maison de la femme rousse qui fait de la rayure et ça tout le monde connaît. Comment est-ce qu'on peut la laisser mourir, mais voilà.
Norbert, qui comme les autres rendra les clés ce soir de cette maison d'exception, la liquidation immédiate prend effet à minuit.
Merci Maxime Debs. La ministre Florence Parly a présenté cet après-midi à Lyon la nouvelle armée de l'espace avec 220 personnes basées à Toulouse qui ont pour mission de protéger nos satellites d'éventuelles attaques. Nathanaël Charbonnier.
C'est le nouveau Far West des années 2020. L'espace et notamment les milliers de satellites qui gravitent dans le ciel, 2000 aujourd'hui, 7000 et plus à l'avenir. L'espace se démocratise, mais surtout devient un enjeu stratégique, avec des menaces. Dernier exemple en date, l'espionnage d'un satellite russe. Conséquence, la France se dote d'une nouvelle doctrine, celle d'ouvrir la porte de l'espace aux militaires, mais dans un but exclusivement défensif, a tenu à rappeler la ministre Florence Parly.
La défense active, cela n'a rien d'une stratégie offensive. Ce dont il s'agit, c'est d'autodéfense. C'est lorsqu'un acte hostile a été détecté, pouvoir y répondre de façon adaptée et proportionnée en conformité avec les principes du droit international.
Et pour pouvoir se défendre dans l'espace et faire la guerre, la loi devra être adaptée dans les mois à venir. À Lyon, Benjamin Chauvin, Nathanaël Charbonnier pour France Inter.
Brexit, Boris Johnson prépare le Royaume-Uni à une sortie sans accord le 31 octobre. L'accord de divorce est inacceptable, dit le nouveau Premier ministre. De son côté, le négociateur de l'Union européenne, Michel Barnier, juge tout aussi inacceptable les demandes de Londres pour rouvrir les négociations. Le journal du Tour. Nairo Quintana, premier vainqueur des Alpes. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir.
Mais Julien Alaphilippe s'accroche à 3 jours de l'arrivée. Le Français n'a pas lâché le maillot jaune.
Il plie mais ne rompt pas pour le plus grand plaisir des fans massés sur le bord des routes du Tour de France, mis en difficulté dans le dernier kilomètre de l'ascension du col du Galibier par les attaques de Geraint Thomas puis de Thibaut Pinot. Julien Alaphilippe a réussi à sauver sa première place au classement général. Passé au sommet avec 20 secondes de retard, le maillot jaune a joué les équilibristes pour garder son bien et revenir sur presque tous ses adversaires.
Je me suis quand même senti pas trop mal jusqu'à l'attaque de Bernal et de Geraint Thomas où là vraiment c'était le moment où ça a changé un peu le cours des choses pour moi. Mais finalement, je me suis accroché vraiment. J'ai fait une descente, je pense que c'était impossible d'aller plus vite. J'ai pris des risques même et je voulais absolument sauver mon maillot. Donc voilà, c'est chose faite.
Julien Alaphilippe qui a offert son maillot jaune à un petit garçon transi de froid sous l'orage juste après la cérémonie protocolaire. Le maillot jaune qui résiste, Julien Alaphilippe, coqueluche du public, admiré de tous, Michel est l'un des fans.
C'est la confirmation de Julien Alaphilippe dans sa position de gilet jaune et après le 100e anniversaire donc du maillot jaune. Donc ça c'est formidable d'avoir un Français effectivement toujours gilet jaune, plutôt fan de Julien.
Un maillot jaune seul, Egan Bernal le premier à accélérer dans cette ultime montée, a réussi à reprendre du temps au leader. Une trentaine de secondes avec à la clé la deuxième place du général à 1 minute 30, juste devant son coéquipier Geraint Thomas, troisième. Bernal qui double Thibaut Pinot au classement, le français recule lui à la cinquième place, il n'a pu attaquer aujourd'hui.
Le but c'était de suivre les meilleurs, on n'a pas réussi à suivre Bernal qui était très fort. Thomas a fait une grosse attaque aussi, on est revenu au sommet quand même. Donc, maintenant c'est deux arrivées au sommet, il se passera peut-être un peu plus de choses. J'espère avoir de meilleures sensations demain et après-demain.
Les coureurs de la formation britannique Ineos sont les grands gagnants du jour avec deux coureurs sur le podium provisoire ce soir.
Et une journée de fête pour la Colombie.
Oui, à la deuxième place d'Egan Bernal de 22 ans s'ajoute la victoire d'étape pour Nairo Quintana, 29 ans, deuxième du tour en 2013 et 2015, troisième en 2016. Il faisait partie d'un groupe de 34 coureurs échappés depuis le début de cette journée. Il a lâché ses derniers compagnons de fuite à 6,5 km du sommet du Galibier avant de s'imposer en solitaire pour signer son troisième succès sur les routes du Tour de France.
On savait qu'on aurait une opportunité aujourd'hui, du coup on s'est mis à rouler devant pour Mikael Landa aussi. Aussi notre coéquipier bien placé au général. Et puis vu qu'on était devant, on a pu jouer la victoire d'étape.
Nairo Quintana, vainqueur avec 1 minute 35 d'avance sur Romain Bardet, suivi par le Kazakh Lutsenko, troisième. Romain Bardet, lui aussi membre de l'échappée de 34, qui s'est emparé aujourd'hui du maillot à poids avec quelques regrets.
J'aurais vraiment aimé gagner aujourd'hui. Voilà, j'ai voulu aussi prendre le maillot à poids, donc j'étais sur un peu sur les deux tableaux. Je veux vraiment ramener quelque chose au Tour de France, j'espère que ce sera le maillot à poids. La victoire d'étape, ça aurait été super, mais je pense qu'il faut que je cours plus juste si je veux en gagner une. Et aujourd'hui, je me suis laissé un peu grisé par le fait d'être devant, après avoir tant subi sur le Tour de France, ça fait enfin plaisir d'être à l'avant.
Et demain, 126 km seulement seront au programme de la 19e étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes, en passant par l'Iseran à 2770 mètres d'altitude.
Merci Fabrice Rigobert.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
C'est votre journée, Sébastien Léas, des records de chaleur en pagaille cet après-midi.
Oui, on l'avait annoncé depuis le début de cette vague de chaleur. C'était aujourd'hui le pic de chaleur au niveau national. Les maximales ne sont pas tout à fait définitives, mais voilà quelques exemples de records historiques sur des stations ayant connu la canicule de 2003. Il a fait 41,7 degrés à Amiens et à Bourges, 41,5 degrés pour Lille, 41,3 degrés à Abbeville, Dunkerque, Orléans, Rouen, 41,1 degrés à Reims et 40,1 degrés à Dieppe, situé en bord de mer. Et puis on peut aussi citer les 39,4 degrés de Deauville.
Changement de décor sur l'ouest, justement.
Oui, alors il fera encore très chaud demain entre l'Alsace, la Lorraine et Auvergne-Rhône-Alpes avec 35 à 39 degrés, mais plus à l'ouest, les températures vont chuter de manière spectaculaire. Les maximales vont perdre parfois plus de 15 degrés, variant entre 22 et 30 degrés. Par exemple, à Rouen, après avoir établi un nouveau record cet après-midi, il ne fera plus que 25 degrés demain. À Paris, on va passer de près de 43 degrés, 42,6 degrés, exactement à 29 degrés. Et puis à Agen, le mercure affichera 26 degrés après les 39 degrés de cet après-midi. Cette chute est due à l'arrivée d'une dégradation pluvieuse et orageuse entre la Normandie, la Vendée, la Touraine et l'ouest des Pyrénées. Entre les Hauts-de-France, les Ardennes, l'Île-de-France jusqu'au Massif central et à l'Occitanie, le ciel sera un peu plus variable, mais au fil des heures, le temps deviendra de plus en plus chaotique et des orages risquent de se développer, surtout l'après-midi. Ces orages seront localement forts et porteurs de grêle. La façade est gardera un temps plus ensoleillé, mais quelques orages isolés peuvent quand même se produire l'après-midi. Et puis sur la Nouvelle-Aquitaine et le nord du pays, des orages peuvent d'ailleurs déjà se produire ce soir et cette nuit.
Sébastien Léas de Météo France.